bonjour pour ce nouveau rendez-vous avec les carnets de Comaguer. Bonjour à Yamine, que nous retrouvons avec plaisir dans les locaux et dans la technique. Merci Yamine d'être revenue.
Bonjour, avec plaisir Bernard.
On est content de te revoir et on espère que tu vas rester un certain temps. Au moins, c'est prévu, je ne sais pas.
Écoute, pour l'instant, c'est prévu.
Tu es en remplacement, c'est ça?
C'est ça, je remplace une collègue qui est partie en arrêt maladie. Donc d'accord. Pour l'instant, je suis là jusqu'à juin, voilà.
Très bien.
Et je serai amené à faire peut-être souvent ta technique, Bernard.
Ok.
Donc on va devoir retravailler ensemble si tu es d'accord avec ça.
Ah mais avec plaisir, plaisir. On avait déjà commencé, donc il n'y avait pas de raison. On était bien lancés, on continue.
Bon mais parfait alors.
On continue, très bien. J'en profite pour dire que mes complices, mes acolytes habituels sont absents les uns, et l'une et l'autre pour diverses raisons. Et donc, je vais assurer la totalité de l'émission sans eux, ce que je regrette, mais je sais qu'ils reviendront l'un et l'autre. Alors, j'ai commencé à vous parler un petit peu de l'actualité française, parce que j'ai fait ça depuis le début de ce que j'appelle la campagne contre la réforme des retraites. Alors, je vais en dire deux mots. Un, sur la procédure parlementaire. Alors, je reviens sur ce que j'ai déjà dit dans des précédentes émissions. Vous avez compris que l'Assemblée nationale a été, en gros, dessaisie du dossier, puisque l'article 47,1 de la Constitution prévoit qu'il y a un délai pour travailler avec l'Assemblée nationale. Ce délai est passé. Le travail de l'Assemblée n'était pas achevé. Certains députés d'opposition ont même poussé la courtoisie, j'allais dire, jusqu'à retirer des amendements qui n'ont jamais été débattus. Et donc, on se trouve aujourd'hui dans la situation suivante, qui est l'application formelle de l'article 47,1, c'est-à-dire que le texte du gouvernement, avec aucune retouche, y compris éventuellement des amendements qui auraient pu être passés en séance par l'Assemblée nationale, se retrouve en l'état initial entre les mains du Sénat, qui va faire exactement la même chose avec la même promptitude ou la même accélération. Et donc on aura au bout le délai qui est prévu dans l'article 47,1 qui fera que la loi sera probablement adoptée, sauf surprise. Bon. Je reviens donc sur cet article 47,1 dont l'utilisation dans cette phase du travail est totalement abusive. Il s'agit d'un article qui prévoit des délais d'urgence au cas où une loi fondamentale de l'État, il y en a deux, les lois concernant les finances, n'est pas adoptée au 31 décembre de l'exercice achevé. Et cette loi couvre l'exercice à venir qui commence le lendemain matin, 1er janvier. Bon, ça s'applique donc à la loi de finances, donc au budget de l'État, et ça s'applique à la loi de financement de la sécurité sociale. Cet article, il est fait, et il a été fait uniquement dans ce cas où une de ces deux lois, ou les deux, ne sont pas votées le 31 décembre, et donc l'État et la Sécurité sociale se retrouvent en fait dans l'incapacité d'exécuter leur budget. Ils n'ont pas de budget voté le lendemain, bon, donc ils ne peuvent pas travailler. Alors, effectivement, ce n'est pas à 24 heures près, mais la situation est celle-là, et c'est cette situation-là qui a été traitée par une assemblée générale, c'est-à-dire une réunion du Congrès. C'est une loi organique. Une loi organique, c'est une loi d'un degré supérieur puisqu'elle résulte d'un vote commun de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc cette loi organique a dit qu'elle s'appliquait dans les cas où le budget de l'exercice qui s'ouvre le jour où doit être voté dans des délais très rapides. On est exactement dans cette procédure-là. La réforme des retraites n'a absolument rien à voir avec cette procédure. Absolument rien. C'est-à-dire que la réforme des retraites soit votée aujourd'hui ou dans un mois, ça ne change absolument rien. Ça ne changera pas l'âge, ça ne changera pas les conditions, ça ne changera rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a un usage anticonstitutionnel de cet article 47,1 de la Constitution sur lequel, pour l'instant, je n'ai pas entendu beaucoup de cris de l'opposition. Ça veut dire qu'elle considère que c'est perdu, elle perd son temps, le Conseil constitutionnel ne jugera pas, j'en sais rien. C'est très très triste, c'est-à-dire qu'au fond, on a un exécutif qui considère qu'il fait passer en force, c'est exactement le cas, un texte qui passera même probablement sans être amendé en rien du tout, tel que, donc le Parlement, Sénat et Assemblée nationale aura perdu son temps, aura été ridiculisé, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire on est dans un épisode où le pouvoir exécutif s'appuie sur des textes qui n'ont pas lieu d'être appliqués pour faire passer un projet sur lequel il ne veut rien retoucher. Donc on est dans la situation d'un rapport de force brutal, et il est perçu comme tel par la majorité des Français et par la majorité surtout des gens qui manifestent contre. Bon. Je ne reviens pas là-dessus. Ça se dénouera, je ne sais pas comment. C'est-à-dire que même ce succès, comme on dit à la Pyrrhus, vous savez, vous connaissez l'expression classique du pouvoir donc de Macron et de Mme Borne aura peut-être des effets à terme. C'est-à-dire que vous ne donnez pas des paires de claques à l'opinion publique et à une grande majorité des Français sans qu'ils s'en souviennent. Croire que les Français ont la mémoire courte, qu'ils ne se souviennent pas qu'ils ont été humiliés, c'est les prendre pour des imbéciles dans leur grande majorité. Donc ça, ça produit des effets à long terme ou à moyen terme, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est un jeu très très dangereux. C'est je vous ai donné des paires de claques, vous n'avez pas accepté, et bien un jour, peut-être ça se payera. On verra. Ça, c'est la politique, c'est la vie future. Je ne la ferai évidemment pas tout seul. Bon. Et ça m'amène à vous parler de ce comportement, de ce gouvernement. De ce président, on le connaît, et de cette première ministre, on ne la connaît pas encore, mais on a compris pourquoi elle était mise là. Et je vous, restant sur le terrain de la, du droit, je vais vous lire un morceau de l'article 222-33-2-2 du Code pénal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive aux émissions sur la guerre. Alors, écoutez bien, je vous lis. Alors, c'est un article qui a été modifié en 2022, mais il est là. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Alors, ça, c'est le délit de harcèlement. Alors, quand est-ce que le délit de harcèlement est constitué ? Petit a, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Ah oui, comportement imposé à une même personne. Alors la personne, la victime, c'est le peuple français, hein, dont est en charge théoriquement le président de la République. Donc propos, comportement imposé, donc harcèlement. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes, M. Macron, Mme Borne, qui même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition, c'est-à-dire je maintiens la loi, je ne bougerai pas, ça, c'est le texte définitif. Les faits mentionnés au premier et quatrième alinéa sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, lorsqu'ils ont été commis sur un mineur. Bon, je passe les détails là-dessus. Lorsqu'ils ont été commis par sur une personne dont la particularité, vulnérabilité due à son âge, à une maladie ou à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur. Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Bon, voilà toutes les conditions du harcèlement. Or, ce que je dis simplement, c'est que le peuple français, sur cette question de la loi sur les retraites, il est harcelé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on lui répète toujours la même chose. Il n'y a rien à changer, c'est comme ça. Et on passe quand même, on le répète. Alors, il y a le monsieur, puis la dame, il y a un système de partage des rôles qu'on a bien compris. Et je m'arrête là-dessus parce que c'est peut-être la conclusion que l'opinion publique en tirera. Lorsque ce comportement a causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, eh bien, les personnes qui ont harcelé la victime, donc le peuple français, peuvent être punies par le code pénal. Donc ça veut dire que si du 7 au 14 mars, la population française fait massivement grève, le délit sera constitué. Et donc nous pourrons, alors je ne sais pas, il n'y a pas de cas de plainte collective pour harcèlement, mais on est exactement dans les dispositions psychiques, morales, intellectuelles du harcèlement. C'est-à-dire on a fait un gouvernement alors, qui ne donne pas des... Alors, je précise quand même, puisqu'on a vécu tous ensemble les gilets jaunes, que pour l'instant, il n'y a pas d'œil crevé, il n'y a pas de bastonnade, mais on est passé au harcèlement moral, ce qui est moins douloureux dans l'immédiat, mais tout aussi insupportable psychologiquement. Voilà. Donc je voulais vous introduire sur ce délit commis par le pouvoir exécutif, ce qui fait qu'on fait passer, on utilise une procédure qui est illégale, on utilise des méthodes qui sont condamnées par le code pénal, on a affaire à un pouvoir qui n'est pas... très très respectable, quoi, voilà. Mais il le sait et il pense que ça passera. Alors ça passera peut-être ou bien ça ne passera pas. L'histoire jugera. Je n'en dis pas plus puisque de toute façon le sujet reviendra nécessairement sur la table dès que le Sénat aura épuisé son délai de non-débat ou de débat stérile puisque ça ne servira à rien. Je reviens aux actualités internationales de la semaine écoulée. Je commence par une réunion qui a eu lieu, c'était en tout début de semaine dernière, qui a eu lieu, c'était une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, sous la présidence donc du secrétaire général de l'OTAN, vous savez, ce monsieur norvégien dont vous avez peut-être entendu le nom, et qui va d'ailleurs arrêter de faire ce travail-là, et il va devenir, oh, il ne prend pas sa retraite, il devient président de la Banque centrale norvégienne. Ouais. Quand on a des très grandes capacités, on les utilise dans différents thèmes d'activité. Et il faut savoir à ce propos, je dis un mot sur la Norvège, que la Norvège est un pays petit, peu peuplé, mais immensément riche. Vous savez que les États constituent des espèces de réserves pour les mauvais moments, qu'on appelle des fonds nationaux, des fonds de réserve. Et donc la Norvège, avec je crois ses 6 ou 8 millions d'habitants, a le plus gros fonds de réserve mondial. C'est-à-dire ils sont assis sur un tas d'or. Voilà. C'est ça la Norvège. Et donc M. Stoltenberg, donc secrétaire général de l'OTAN, qui va devenir président de la Banque centrale de Norvège, est assis sur un tas d'or. Donc peut-être il parle d'or, je ne tirerai pas cette conclusion un peu facile. Bon. Et qu'est-ce qui s'est dit à cette réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, qui est une réunion classique où tout le monde est là? Il s'est dit qu'il fallait continuer la guerre contre la Russie, ça a été acquis. Il a dit il s'est dit aussi qu'il fallait augmenter les envois d'armes, y compris peut-être d'avions, de missiles, etc. Bon, reconnu, pas de surprise de ce côté-là. Et puis, il y a eu quand même une certaine mise au point concernant la participation ou l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, dans l'OTAN, pardon, je mélange les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Monsieur Stoltenberg a répondu à cette question-là. Il a dit, c'est tout à fait clair, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Alors, de jure, c'est-à-dire au point de vue du droit, il n'y a pas de problème, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. À quoi M. Zelensky avait répondu à l'avant, oui, mais l'Ukraine, de facto, fait partie de l'OTAN. Alors, on en est à cette position-là, c'est très, très intéressant, c'est-à-dire l'Ukraine qui prétend qu'elle est de fait intégrée à l'OTAN, ce qui est assez proche de la réalité puisqu'elle reçoit des armes, de l'argent et tout, on en est à un chiffre, une estimation, bien sûr, de 100 milliards de dollars déjà versés au gouvernement ukrainien pour qu'il puisse mener sa guerre. Bon. Donc, on en est là. Et la mise au point est importante puisqu'elle rappelle quand même que l'OTAN est un organisme qui est réglé par un traité, le traité de l'Atlantique Nord, et que ce traité est très explicite sur la question des membres. Il n'y a pas de membres de facto, il n'y a pas de membres de fait de l'OTAN, il n'y a que des membres de droit qui sont admis par les États signataires. Donc ceux qui, comme M. Zelensky, disent que en fait c'est la même chose, l'Ukraine est dans l'OTAN, c'est un mensonge, hein, puisque l'OTAN n'a jamais délibéré là-dessus, et l'OTAN ne pourra pas, je vais beaucoup plus loin, délibérer là-dessus, parce que si l'OTAN délibérait en disant on prend qui on veut, il n'y a pas besoin qu'on soit tous d'accord, ça voudrait dire que le leadership des États-Unis ne vaut plus rien. Parce que ce qui tient l'OTAN ensemble, c'est le fait qu'il y a les États-Unis qui font la loi et que toutes les décisions au sein des organes dirigeants de l'OTAN sont prises à l'unanimité. Si à partir du moment où on dit on fait des votes à la majorité et vote qui veut, ça veut dire que c'est une pétaudière, l'OTAN, de ce que ça peut. Enfin, une organisation militaire qui est une pétaudière n'a pas beaucoup d'avenir. Vous le comprenez. Ça, c'était donc la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. Ça s'est passé à Bruxelles, au siège de la dite OTAN. Et puis, il s'est passé en fin de semaine, donc de vendredi à dimanche, ce qu'on appelle la conférence de Munich. Alors, qu'est-ce que c'est que la conférence de Munich? C'est une conférence internationale touchant à la sécurité collective en Europe, dont les premières réunions ont eu lieu il y a une vingtaine d'années. Et qui permet de rassembler dans un local où alors on ne s'engage à rien, simplement on parle, mais toutes les parties du monde peuvent être représentées, tous les chefs d'État peuvent être représentés pour parler des sujets d'actualité. Il y en a une par an, toujours à cette même période, au courant du mois de février, et on parle de la situation sur la scène internationale. On a évidemment parlé de la situation en Ukraine. Et là, effectivement, comme la Russie n'avait pas été invitée, ce qui avait été le cas dans d'autres cas précédents, on a fait comme si la Russie était accusée de fait de tous les maux, et donc comme si de toute façon elle ne pouvait pas répondre puisqu'elle n'était pas là. Je ne développe pas beaucoup là-dessus, puisqu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à cette position. Par contre, je vais m'arrêter sur la position du représentant de la République populaire de Chine. Alors, il faut savoir que M. Wang Yi, qui représentait la République populaire de Chine à cette conférence sur la sécurité collective en Europe, est un personnage qui a pris, comme on dirait, du galon. Il était jusqu'à l'année dernière ministre des Affaires étrangères de la République populaire, ce qui est déjà un très très gros poste, et il a voyagé partout, il connaît beaucoup de monde. Mais il est rentré à la suite du 20e congrès du Parti communiste chinois dans le comité permanent du bureau politique du comité central. Alors c'est un peu compliqué comme titre, mais je vous rappelle que le comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois comporte 7 membres. Il y a le président que vous connaissez, Xi Jinping, et 6 autres. Monsieur Wang Yi fait partie des 6 autres, c'est-à-dire il fait partie des 7 personnages les plus puissants dans la République populaire de Chine. Et il est en charge des affaires étrangères. C'est-à-dire que la Chine ne pouvait pas envoyer quelqu'un de plus haut placé, de plus autorisé et de plus proche de la pensée de l'équipe qui dirige la Chine populaire que ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit 2 choses. Je simplifie par rapport au conflit en Ukraine. Il a dit d'une part, effectivement, la Russie est rentrée en Ukraine, c'est une agression. D'autre part, l'Ukraine n'a pas respecté ses signatures quand il y avait une recherche d'accord dans les accords de Minsk. Je me suis expliqué là-dessus, vous savez de quoi il s'agit. Donc, c'était une façon de dire tort partagé. Il a insisté en disant le monde a besoin de paix. Le monde a besoin de paix, à telle enseigne, et ça, il ne l'a pas dit très explicitement, mais je m'arrête dessus, c'est-à-dire que la crise international actuel fait que les économies se ralentissent. L'économie européenne, on en connaît le prix. L'économie des États-Unis elle-même n'est pas en pleine forme à part les marchands de canons. Et en fait, il y a aujourd'hui un pays qui tire la croissance mondiale, c'est la Chine populaire et personne d'autre. C'est-à-dire que dans le moment où, au niveau de l'Union européenne, on est en des taux de croissance du PIB de l'ordre de 1 à 2% dans le meilleur des cas, aux États-Unis, c'est guère mieux. La Chine va encore être sortie de 2022 avec un taux de croissance de 6 et quelques. Ça va encore être mieux en 2023, selon toute vraisemblance, et vu les tendances déjà des premières semaines. Et donc, en fait, c'est la réalité. La Chine tire l'économie mondiale hors de ce qui serait une profonde récession globale. Bon, ça, les autres le savent, mais ils ne veulent pas le reconnaître, ça les gêne, ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait à la hauteur de la situation. Et la Chine dit, de ce fait, et pour continuer à ce que l'économie mondiale tourne et ne s'effondre pas, il faut qu'on arrête les conflits et que ce ne soient pas les industries de guerre qui soient les seules qui prospèrent. Voilà un langage qui est compréhensible par la totalité de la planète. Et il a ajouté, c'était le message de son président, en disant, dans un mois, nous vous ferons connaître un plan de paix pour l'Ukraine. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que personne ne l'a repris. C'est-à-dire qu'en fait, il a suffi que la Chine dise « Bon, maintenant, on vous a exposé la situation, vous avez bien compris, vous la connaissez d'ailleurs, mais c'est bien qu'on la rappelle publiquement. Maintenant, on va vous donner notre plan dans un mois. » Et maintenant, ce qui est assez fascinant et extraordinaire, c'est que tous les autres, maintenant, attendent le contenu du plan chinois. C'est-à-dire le fait que la Chine ait cette autorité politique, cette capacité économique et qu'elle joue un rôle déterminant dans l'évolution générale de la situation planétaire fait que tout le monde, maintenant, en est à dire « Eh bien, on va attendre le plan. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le plan ?» C'est très très intéressant parce qu'il y a une prise d'initiative, c'est-à-dire dans le jeu, s'il y avait un jeu, on dirait la Chine prend la main. La Chine prend la main et c'est elle qui va dire ce qu'elle propose pour que la crise s'achève. Alors, ils sont les seuls, c'est le seul pays qui est en capacité économique, politique, diplomatique, stratégique de dire ça. Elle va le dire et ce qui est absolument étonnant et extraordinaire, c'est que tout le monde attend. C'est-à-dire que la Chine a dit « j'ai les cartes dans les mains et maintenant je vais dire ce qu'il faut faire ». On a donc là une espèce de leadership qui s'affirme, qui est intéressant parce que c'est un leadership qui ne dit pas « je vais rentrer dans tout le monde, je vais bombarder tout le monde », ça nous change des leaderships précédents, mais je vais faire des propositions de paix pour la réactivation des relations internationales, la réouverture du commerce, l'absence, la suppression des barricades, etc., des sanctions et tout le bazar, pour que la planète dans son ensemble et les habitants, les 8 milliards d'habitants, puissent se retrouver à un horizon un peu plus clair et paisible que celui qu'ils ont sous les yeux dans les semaines qui viennent et qu'ils ont depuis un an sous les yeux, même depuis plusieurs années pour certains. Voilà ce que je voulais dire sur cette conférence de Munich. C'était très intéressant qu'elle se tienne. Alors, bien entendu, ça n'a pas empêché M. Macron, le Premier ministre britannique et beaucoup d'autres de faire leurs effets de tribune. Alors, des effets de tribune, alors, du genre Macron disant « Oui, il faut que la Russie perde, mais il ne faut quand même pas qu'elle perde trop. » C'est-à-dire qu'il a tenu, et moi je trouve ça extraordinaire, et plus on s'arrête, plus il faudrait une analyse, comment dire, sémantique et sémiologique du discours macronien. C'est-à-dire que quand on tient ce discours, il faut qu'ils perdent, mais pas que ça leur coûte trop cher. À quoi ça vous fait penser? Alors je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, moi ça me fait penser à la chose suivante. C'est un chef de gang qui dit à ses lieutenants, parlant d'un opposant ou d'un adversaire, « Bon, donnez-lui une bonne raclée, mais ne le tuez pas. Hein, laissez-le pas au sol couvert de sang. Hein. » C'est ça que ça veut dire. C'est un langage de voyou qui me rappelle le moment de l'affaire Benalla. Souvenez-vous, « Il me cherche, qu'il vienne me trouver. » On était déjà dans ce langage de voyou. Or, la République française en est là. Enfin, elle s'est mise dans les mains de ce monsieur. Mais au niveau de la sémiologie, on a effectivement un vocabulaire de chef de bande. Ça se confirmera d'ailleurs, et on y reviendra peut-être dans une autre émission, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des documents qui sortent pour expliquer comment M. Macron est devenu président de la République. Ça, on sait, bon, il y a eu un vote, ok, vous savez, mais qui a organisé la campagne électorale de M. Macron? Eh bien, c'est très très simple, parce qu'on a les noms, on n'a pas encore les budgets, mais on a les noms de tous ceux qui ont préparé, donc une campagne électorale présidentielle, ça se prépare, il y a des thèmes, il y a des discours, il y a des salles à réserver, il y a du matériel publicitaire, etc. C'est un gros travail, ça se passe qu'une fois tous les 5 ans, heureusement, mais il y a un énorme investissement. Cet énorme investissement a été pris par une boîte de conseil américain qui s'appelle McKinsey. Hein ? Alors mettez-vous bien ça dans la tête. L'élection présidentielle de M. Emmanuel Macron, la première et la deuxième à suivi, ont été conçues et orchestrées par un groupe de conseil états-unien. Et qu'est-ce qui s'est passé après la réussite de ce plan de ce conseil états-unien ? Ce conseil états-unien a été remercié de sa contribution au succès du candidat. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dès l'instant où M. Macron a été installé sous les ors de l'Élysée, il a mis en place un système de double commande de l'État. J'explique bien pour bien qu'on comprenne dans quel état nous nous trouvons, qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour toutes les équipes qu'il y a à la direction des ministères, il y a des hauts fonctionnaires compétents qui connaissent leur métier, qui connaissent le terrain, qui connaissent la législation, etc. Il y a toujours, pour les grands sujets, une double équipe de chez McKinsey qui travaille sur les mêmes sujets. Et en fait, la solution McKinsey à un problème, quel qu'il soit, est toujours présentée comme plus intelligente et plus favorable que la solution des hauts fonctionnaires de l'État que nous payons. On paye aussi McKinsey. Voilà comment le chef de l'État détruit l'État, c'est-à-dire qu'il le laisse en place. Mais en fait, il le taraude par-dessous, puisqu'en fait, les hauts fonctionnaires, aussi compétents qu'ils soient, et aussi capables et aussi bien formés qu'ils aient pu l'être, de toute façon, perdent leur temps. Et probablement, pas mal le savent. Et à ce moment-là, quelles conclusions ils en tirent? Ça ne vaut pas la peine d'être à ses postes, puisque de toute façon, c'est la proposition McKinsey qui sera retenue. Et donc, qu'est-ce que ça engendre? Un mouvement de fuite, c'est-à-dire ces hauts fonctionnaires compétents qui étaient en charge de tenir l'État en état de marche vont avoir tendance à s'en aller planter leurs choux ailleurs. Voilà comment on détruit un pays. Monsieur Macron, vous êtes en train de détruire la République française. Et je vous en accuse très très clairement, publiquement, et je répondrai devant n'importe quelle instance à ces accusations. C'est tout. C'est pas rien, mais enfin, j'ai osé. Je l'ai dit. Voilà. Ensuite, ça c'était donc la conférence de Munich et les différentes prises de parole. Alors, ce qui est amusant, quand même, je finis là-dessus, même si j'accable Emmanuel Macron, mais je ne l'accable pas là. Je mets quelques points sur les « i » qui ne sont pas assez souvent mis. Le mercredi précédant la conférence de Munich, qui commençait vendredi, le représentant de la République populaire chinoise, M. Wang Yi, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, a fait un petit crochet en Europe. Il s'est arrêté à l'Élysée. Il est allé voir M. Macron. Et donc, il a dû expliquer à M. Macron quelle est la situation de M. Macron vue depuis Pékin. La situation de M. Macron vue depuis Pékin est que, de toute façon, M. Macron a signé, il y a un an, c'était au mois de janvier 2022, une déclaration commune avec M. Boris Johnson, qui était à l'époque Premier ministre, avec M. Joe Biden, qui était président, avec M. Xi Jinping et avec M. Vladimir Poutine, une déclaration relative à la guerre nucléaire, disant qu'aujourd'hui, les 5 puissances qui possèdent l'arme atomique considèrent que l'arme atomique est une arme inutilisable. Je souligne là-dessus, c'est écrit, vous la trouvez sur le site de l'Élysée, c'est inutilisable parce que de toute façon, tout le monde meurt. Dès l'instant où on appuie sur ce bouton-là, on appuie sur un bouton, il y en a un deuxième qui appuie sur un bouton, un troisième qui appuie sur un bouton, etc. Il ne reste rien, on est tous morts. Bon. Ces 5 chefs d'État, alors à la limite le nôtre est peut-être le moins, enfin, je ne sais pas s'il est moins sérieux que les autres, mais ces 5 chefs d'État ont dit la réalité de ce qu'ils pensent sur le fond, c'est-à-dire ils ne peuvent pas se battre entre eux, donc ils ne peuvent que trouver un accord sur la façon de régler les questions internationales. C'est très, très important. Et je pense que, ça n'a pas été dit, mais que M. Wang Yi est venu rappeler à M. Macron qu'il avait cette réponse-là, et cette possibilité-là de participer à l'avenir du monde, d'être sérieux et, sous-entendu, mais ça c'est moi qui l'ajoute, de ne pas se livrer à ces gamineries de grands garçons qui disent « on va lui casser la figure, mais il ne faut pas trop lui faire mal, etc. » Ça, c'est indigne. La réalité, c'est celle-là. M. Macron a entre les mains de quoi de tuer des dizaines de millions de personnes. Il faut qu'il grandisse dans sa tête. Hein, parce qu'autrement, on peut le considérer comme dangereux. Voilà. C'est dit. C'était beaucoup à dire, mais ça méritait de l'être. Alors cette semaine va être intéressante parce qu'il se passera, ça sera le 25, donc ça sera samedi à Gênes, la première manifestation nationale dans un des pays de l'OTAN contre la guerre. C'est très très intéressant. Alors c'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas le gouvernement de Mme Meloni qui a été à cette manifestation, c'est le collectif autonome des travailleurs portuaires. C'est-à-dire il s'agit d'une initiative de base, de dockers, de travailleurs du port de Gênes, qui est l'un des plus grands ports, le plus grand port d'Italie, même à ma connaissance, qui disent, voilà, le thème, c'est très très simple, s'ils appellent à une manifestation nationale, qui sera, je pense, assez suivie, parce qu'il y a des tas d'appels pour que cette manifestation soit un succès, en disant, arrêtez les armes, augmentez les salaires. C'est-à-dire, c'est un appel au gouvernement en disant, avec le budget de l'État, vous pouvez soit fournir encore plus de canons, encore plus de munitions à M. Zelensky et à son équipe, ou bien augmenter nos salaires et donner un meilleur niveau de vie à la population italienne. Je souligne au passage que les conditions matérielles de la vie quotidienne en Italie sont beaucoup, beaucoup plus dégradées qu'en France, si c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a zéro embauche dans les services publics, des salaires à la traîne depuis non pas un an, deux ans, mais depuis des dizaines d'années, les services publics qui sont en train de s'effilocher. La situation italienne est beaucoup plus grave que ce qu'on veut nous dire. Alors les Italiens le savent, on n'en fait pas beaucoup état en dehors de leur pays. Et pendant ce temps-là, effectivement, Mme Meloni, donc l'admiratrice de Mussolini, est toujours prête à envoyer des canons, des munitions, etc. à M. Zelensky. Et c'est ça le but de cette manif nationale, dont je souhaite qu'elle ait un très grand succès. Ça sera la première du genre sur tout l'espace européen, alors qu'il devrait y en avoir de semblables dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays de l'Union européenne. Ce sera la première manifestation où un gouvernement sera mis en demeure par une manifestation populaire de dire « arrêtez de fournir des armes, occupez-vous de la paix et de notre niveau de vie ». Ce qui est la responsabilité immédiate et impérative de tout gouvernement sérieux. Aujourd'hui, c'est vrai que je regarde autour de nous quelle est la capacité, enfin quelles sont les forces françaises qui sont en capacité aujourd'hui de prendre une telle initiative. Il n'y en a pas. Bien qu'il y ait ici et là, on le voit, on l'a vu dans différents cortèges des manifestations contre la réforme des retraites, des discours ou des prises de position des uns et des autres. C'est vrai que dans une manifestation, on entend des gens qui sont au micro qui disent des choses. La question donc de la guerre n'est pas au centre de ces manifestations, mais elle peut le devenir assez vite, car au fond, quand il y a des annonces comme celle du président de la République disant qu'il va donc faire voter une loi de programmation militaire avec 413 milliards de crédits nouveaux, et qu'on sait qu'il manque quelques milliards pour équilibrer les comptes de l'assurance vieillesse, on sent bien qu'il y a un vrai sujet de préoccupation. À ce propos d'ailleurs, et je finis là-dessus parce que c'est aussi intéressant, les 413 milliards annoncés par M. Macron, qui donc, c'est une loi de programmation militaire qui ira de 2024 à 2030. On ne sait pas très bien à quoi ils vont servir. Alors ça fait partie de sa façon de travailler. On annonce des chiffres très très importants, puisque c'est 30% de plus que la précédente loi de programmation militaire. Mais exactement, qui va en bénéficier ? Et là, donc, on est dans la période, on est en 2023, donc elle doit être votée l'année prochaine. On est au moment où chacun se dit, bon, moi, qu'est-ce qu'il me faut ? Chaque membre de l'armée, que ce soit la terre, l'air, etc., qu'est-ce qu'il me faut ? Bon. Et ce qu'on sait... C'est là que ça mérite d'être expliqué, c'est qu'au fond, personne ne s'y retrouve vraiment. Et surtout, personne ne s'y retrouve vraiment et on arrive au fond de la question. C'est-à-dire qu'une armée, c'est destinée à protéger contre un ennemi. Et aujourd'hui, si on demandait à la population française « Est-ce que vous pensez qu'un pays va bombarder la France demain matin, va envahir nos territoires, va, je ne sais pas, imaginer, casser nos pipelines, nos infrastructures, nos autoroutes et tout ?» Quelle serait la réponse ? Et je pense qu'il n'y aurait pas de réponse claire. Et c'est pour ça, en fait, que l'armée, en même temps qu'elle est cajolée par Macron, qui annonce 400 milliards, donc 30% de plus pour le budget militaire, l'armée a un doute en disant « Mais moi, je ne sais pas exactement quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on prépare, contre qui, avec quoi, etc. » Et là, on a une vraie crise potentielle, c'est-à-dire que l'armée pourrait très bien dire, malgré le fait que Macron pense que les 413 milliards, c'est destiné à les faire taire, qu'elle ne se tait pas, parce qu'elle ne sait pas à quoi elle est vouée. Elle ne sait pas où va la France, elle ne sait pas quels sont nos ennemis, si on en a, et pourquoi ils sont nos adversaires. Alors après, quand on noie ça dans le vocabulaire général des intérêts de la France, les intérêts de la France, c'est qui ? C'est les intérêts de Dassault, c'est les intérêts de Bouygues, c'est les intérêts de Vinci. On ne sait pas. C'est pas dit, c'est pas clair. Et les militaires aiment bien savoir... Alors, bien sûr, dans les états-majors, on ne court pas beaucoup de risques physiques, mais enfin, les militaires à qui on dit « vous allez aller faire quelque chose » aiment bien savoir avant de mourir, parce qu'ils savent qu'ils peuvent mourir, pourquoi ils y sont allés. Là, je serais très curieux de demander, alors peut-être pas au niveau des généraux avec des étoiles, mais au niveau des chefs d'unité, des officiers supérieurs, des colonels, des commandants, etc., qu'est-ce qu'ils pourraient dire à des soldats en disant ben, « on part, vous risquez de mourir demain matin, mais voilà pourquoi on y va, est-ce que vous êtes convaincu ?» Et je ne suis pas sûr qu'il y aurait une réponse. Ils diraient « faire quoi ? Contre qui ? À quoi ça rime ? Est-ce que c'est le moment ?» Mais il n'y a pas de doctrine militaire parce qu'il n'y a pas d'analyse correcte de la situation internationale. Il n'y a que des vues très très courtes. Très très court. Alors, la France n'est pas le seul cas, c'est la même chose en Grande-Bretagne, et c'est, je pense, aussi la même chose aux États-Unis. Alors, je vais venir un petit peu sur le cas des États-Unis, pour vous parler un peu d'autre chose que d'armée, mais pas que. Alors, vous savez que hier, M. Biden, président en exercice, était à Kiev par surprise. Il était à Kiev par surprise, puisque la semaine dernière, on avait appris qu'il allait aller à Varsovie. Alors, ce n'était pas très loin. Et puis, en fait, il s'est retrouvé à Kiev. Après, alors, je vous le cite, parce que ça n'a pas été beaucoup dit, après 20 heures de train. Ah, mais M. Biden n'a même pas une voiture et des avions à sa disposition. Non, il a fait 20 heures de train. J'ai trouvé ça dans une dépêche de presse. Alors, d'où venait-il ? Ben, peut-être, effectivement, de Varsovie ou d'un peu plus loin, peut-être de Berlin, dans ces zones-là. Il est arrivé à Kiev par surprise. Alors, on nous a un grand déploiement de vision devant la cathédrale de Kiev, etc., avec Zelensky. Et il est allé pour dire qu'il fallait continuer, il fallait gagner la guerre, etc., que les États-Unis allaient encore envoyer du matériel, encore envoyer de l'argent. Je veux dire, on est déjà à 100 milliards de dollars et il y en a peut-être encore plus d'annoncés. 500 millions votés ces derniers jours sans problème. Bon, ça, et la somme continue à monter. Et qu'est-ce qu'il est allé faire ? Alors, il est allé peut-être redonner un peu de courage au gouvernement ukrainien et surtout à ses soldats qui sont en train de se débander de plus en plus dans toute une série de régions. Ces soldats, les soldats nouveaux de l'armée ukrainienne, qui est là, en gros, la troisième armée ukrainienne depuis le début du conflit. Je simplifie. De février à juin, on a eu la première armée ukrainienne qui a été totalement défaite. Après, l'OTAN a aidé à reconstituer une deuxième armée qui est en cours d'affaiblissement, voire de disparition, et on en est en train de fabriquer une troisième armée ukrainienne où il y a de moins en moins d'Ukrainiens, bien qu'on oblige beaucoup de gens, enfin, il y a une espèce de conscription obligatoire et qu'on chasse, enfin, il y a une chasse à tous les gens qui ne veulent pas y aller, hein, mais avec des mercenaires d'ici de là, on arrive à fabriquer une troisième armée ukrainienne, c'est la troisième, donc il y en a deux qui ont disparu, on est dans la troisième, il faut continuer à les alimenter. Donc ça, c'est la réalité militaire, on va continuer. Alors, M. Biden est arrivé donc, pour dire ça. Est-ce qu'il y croit ? Je ne sais pas, on va revenir sur la situation aux États-Unis. Ce que je note simplement, c'est que très gentiment, mais avec beaucoup d'esprit de fair play, la Russie a été informée la veille ou dans les heures précédentes de l'arrivée du train présidentiel et a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'erreur de tir et qu'il n'y ait pas un missile russe qui vienne frapper le train présidentiel. Là, on est dans des espèces de jeux, de jeux médiatiques. Il faut montrer que le président n'a peur de rien, qu'il va là où c'est grave, là où c'est chaud, etc. Bon, mais la bonne volonté russe mérite d'être notée. Pour ce qui est de la situation aux États-Unis, et je renvoie à ça parce que ce n'est pas indépendant. C'est-à-dire, ce que M. Biden est allé essayer de démontrer à Kiev avec M. Zelensky, c'est qu'il est un homme fort, puissant, et que surtout, il envisage de devenir à nouveau président en 2024. Or, il faut savoir que dans le système électoral et politique des États-Unis, on passe toujours d'une campagne électorale à une autre. Et donc, après la campagne de 2022 pour l'élection à moyen mi-exercice donc de la Chambre des représentants et d'une partie du Sénat, on est déjà en train de préparer les primaires pour les élections présidentielles de 2024. Et pour que M. Biden puisse être candidat à la présidence une deuxième fois, il faut d'abord qu'il gagne une primaire. Et donc l'état-major démocrate est en train de chercher un endroit où on va le faire élire. Il se trouve que M. Biden est en train de perdre beaucoup, beaucoup de son électorat. Beaucoup de son électorat qui a cru que c'était un président plus de paix que Trump, peut-être. Bon, maintenant ça s'avère ne pas être tout à fait exact. Qui a cru qu'il allait s'occuper des affaires du peuple américain, c'est-à-dire des difficultés économiques, des difficultés sanitaires, etc. Il s'en est pas énormément préoccupé. Et donc on en arrive à une situation, alors qui est encore modeste, il ne faut pas du tout l'amplifier au-delà du raisonnable, mais il y a eu ce week-end à Washington, devant le Capitole, une manifestation en disant « nous en avons assez de donner des dollars pour la guerre, alors que nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes d'emploi, nous avons des problèmes de salaire, nous avons toute une série de problèmes ». Et il y a aujourd'hui des petites manifestations, je ne cherche pas du tout à en augmenter la taille, mais le peuple américain est en train de se réveiller en demandant des comptes à ce président, en disant « mais attendez, les dollars que vous prenez dans notre poche, puisqu'il y a des impôts, servent uniquement à envoyer des sous à Zelensky, nous ça en marche pas hein ». Donc les manifestations « non à la guerre » existent, commencent aux États-Unis. Elles font écho en plus petit à ce qui se prépare donc à Gênes ce samedi, je vous l'ai dit. Et je pense que ce genre d'initiative va se multiplier dans le cadre de cette préparation. Et ça n'est pas impossible, alors ça serait une grande surprise, que M. Biden ne soit pas élu aux primaires. Parce que sa cote de popularité, y compris dans l'électorat démocrate, est tombée très 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 bas. Pourquoi elle est tombée très bas ? Sur ses problèmes de fond, hein. Trop d'argent pour la guerre et pas assez d'argent pour la population des États-Unis. C'est un langage qu'on peut tenir à peu près partout en Occident. On peut le tenir ici, pareillement en France. Bon. En même temps, il y a des faits qui montrent que l'économie concrète des États-Unis est dans un état catastrophique. Je veux faire référence, alors la semaine dernière, on a parlé de toute autre chose, là, du porte-avions ex-Foch français qui a été coulé dans l'Atlantique. Là, je vais vous parler d'une catastrophe ferroviaire qui a eu lieu donc, il y a plusieurs semaines maintenant aux États-Unis et qui a conduit à une énorme catastrophe écologique, puisque c'est un train contenant du chlorure de vinyle dans des wagons qui a déraillé. Le stock de chlorure de vinyle, qui est un produit très très toxique, s'est mis à brûler, donc la pollution est très très importante. Et ça a été d'abord caché à l'opinion, et puis ça a fini par se savoir. Alors il faut savoir effectivement que la situation des chemins de fer aux États-Unis est catastrophique. C'est-à-dire que les États-Unis, je le rappelle, c'est un pays grand. Hein, donc là, une bonne part des transports à l'intérieur de ce pays, en particulier les transports de marchandises, se fait avec des trains. avec des trains donc, qui marchent au gasoil, etc. Vous avez tous des images là-dessus. Et il faut savoir que le système capitaliste fait que les compagnies ferroviaires des États-Unis, alors il y en a plusieurs qui pratiquement ont chacune un monopole sur un tronçon de trajet quelconque. Il y a plusieurs niveaux de trajet entre l'Est et l'Ouest selon qu'on est au Nord ou au Sud. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a donc une série de compagnies qui ont le monopole du trafic ferroviaire, du transport dans un secteur des États-Unis. Ces compagnies ont une politique qui consiste à distribuer le maximum de dividendes à leurs actionnaires et à donner le moins en moins de salaire pour leur personnel et de moins en moins d'argent pour l'entretien des rails et des infrastructures ferroviaires. Donc on a une situation qui est une espèce de caricature du capitalisme dans sa forme la plus débridée et la plus folle. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'argent à gagner, puisque de toute façon, la plupart des gros transports lourds, que ce soit des produits chimiques, des produits de la construction, des produits métallurgiques, traversent, vont d'un état à l'autre, et d'un état à l'autre, ça peut faire des 1200, 2000, 3000 kilomètres. C'est des trajets énormes. Donc ces compagnies-là, qui sont en position de monopole, imposent des tarifs à leurs clients, distribuent d'énormes bénéfices, de plus en plus gros, on les connaît, je ne vais pas vous les citer, mais c'est suivi de très très près, et sont en train de surexploiter leur personnel à un niveau jamais vu. Au point d'obliger les personnels, il y a le personnel qui est sur la rame en train de rouler, et puis il y en a une personne qui est d'astreinte, qui viendrait en cas de maladie, de malaise, de celui qui est là. Enfin, des conditions de travail absolument épouvantables, des salaires de plus en plus faibles, et donc, en fait, forcément, à un moment donné, le système craque. L'entretien des voies, c'est pareil. Et donc là, on a eu le cas, donc, pour cette catastrophe ferroviaire, on a eu le cas, donc, absence d'entretien, catastrophe, et puis enfin, moyen de lutte contre la pollution très faible. La seule réponse, ça a été la censure sur l'information. Pendant 15 jours, en gros, la population locale a vu s'élever d'énormes nuages, s'est mise à tousser, à cracher, etc. Le reste des États-Unis n'en a pas su grand-chose. Bon. Ça finit par sortir, mais ça permet de mettre le doigt sur un problème récurrent de l'économie capitaliste des États-Unis, c'est-à-dire que dès l'instant où c'est la seule réussite financière qui joue, un réseau de transport de long terme et de longue durée ne peut pas fonctionner normalement. On en arrive au point, et c'est très intéressant à noter, qu'il y a aujourd'hui une campagne pour la nationalisation des chemins de fer aux États-Unis. Car c'est une évidence qu'une infrastructure qui met des dizaines d'années à se créer, qui a besoin d'un entretien permanent, changer les rails, changer le ballast, etc., changer les signalisations, ne fonctionne pas si on ne l'entretient pas. Ah donc, le capital s'est gavé sur le transport ferroviaire qui est indispensable pour la vie quotidienne de l'économie des États-Unis, et le capital n'a pas fait son travail, parce que c'est pas son travail, le capital il veut gagner de l'argent, un point c'est tout, et donc à un moment donné on approche de l'effondrement de l'économie des États-Unis. Et c'est ça que je veux mettre en rapport, et c'est pas tout à fait par hasard, c'est-à-dire cette approche de l'effondrement de l'économie des États-Unis qui est étrange quand on a en face de soi un pays qui dit qu'il va mener la guerre ici, mener la guerre là, donner 100 milliards aux uns, 100 milliards aux autres et tout. C'est-à-dire, il n'est pas possible que beaucoup plus longtemps que pendant trop de temps, la population de base aux États-Unis accepte d'être aussi maltraitée par son propre pouvoir. Alors, ça prendra quelle forme, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que pour l'instant, l'inquiétude des démocrates, c'est une inquiétude qui touche à leur candidat officiel, à leur opposant officiel, les républicains. Ça peut prendre de toute autre forme, c'est-à-dire que ça peut prendre des formes qu'on a vues au moment de la guerre du Vietnam, d'opposition populaire beaucoup plus massive, etc. Je ne sais pas, je ne fais pas de dessin. Mais il est certain que le simple face-à-face entre Trump et Biden n'est pas suffisant pour régler les problèmes des 350 millions des États-Unis. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, bien sûr, les médias vont jouer à nous montrer cette espèce de combat de faux titans, hein, mais c'est plutôt Guignol et le gendarme, hein, mais c'est pas plus sérieux que ça. Et en fait, la population, elle sait maintenant, puis elle s'informe, elle arrive à s'informer, elle sait maintenant que le pays est mal géré. Le pays est mal géré, et il dépense beaucoup d'argent pour soutenir des causes qui ne le méritent peut-être pas, et il ne dépense pas beaucoup d'argent pour sa population à laquelle il fait simplement payer des impôts, qui est mal soignée, qui est mal transportée. On ne parle même pas d'un TGV aux États-Unis, ils ne savent même pas faire ça, ils ne savent rien faire dans ces domaines-là. Ils fonctionnent avec des vieilles locomotives au diesel qui sont complètement dépassées. Bon. Donc on a une société dans un état de grande fragilité, dont l'avenir est inquiétant pour la population, et une société qui en même temps veut encore rester celle qui dicte au monde entier sa conduite, en disant c'est ça qu'il faut faire, j'ai compris, moi je suis au-dessus de la mêlée, et je sais ce qu'il faut faire. C'est plus du tout vrai, et c'est alors... On avait pu le concevoir ici, à d'autres endroits, mais qu'une partie de la population des États-Unis se mette à dire « mais ça ne tient pas debout, ça vient pas... tout cet argent qu'on donne pour le donner à des gens qui ne sont pas intéressants, pour mener des conflits dont on ne voit pas l'issue, qui ne nous servent à rien, pendant que notre pays est mal géré, mal tenu, mal soigné, ça ne peut pas durer très très longtemps. » Donc ça, c'est un espoir que j'ai pour la suite des événements, c'est-à-dire l'éveil du peuple des États-Unis qui a montré ici et là qu'il était capable de se réveiller. Pour ça, je pense aux campagnes contre la guerre du Vietnam. On n'est peut-être pas loin de là, surtout quand on a affaire, comme ils auront comme tout potage politique à choisir entre Trump et Biden, je veux dire, c'est pas très, très stimulant. Ils vont peut-être avoir envie d'avoir un autre paysage et d'autres discours et d'autres personnages que ces personnes-là, l'un corrompu, l'autre milliardaire excessif, tout ça. Tout ça ne donne pas envie de continuer à fonctionner avec ces gens-là. Bien, ben voilà ce qu'il fallait dire aussi. Alors à propos des États-Unis, je vais revenir un petit peu sur l'accident, le dynamitage du gazoduc. Parce que vous savez qu'il y a une quinzaine de jours, donc un grand journaliste d'investigation, Seymour Hersh, a dit qu'effectivement, il avait des informations selon lesquelles c'était effectivement les États-Unis au plus haut niveau, c'est-à-dire une opération préparée par l'équipe qui entoure Biden, donc Nuland, Madame Nuland, M. Blinken et le chef de la sécurité, M. Sullivan, qui avaient monté le coup. Et puis, ça n'a pas été beaucoup relayé dans la presse et sur les médias des États-Unis, un petit peu en Europe, mais pas tant quand même. Et puis, il semblait que M. Seymour Hersh soit n'avait pas tout dit, soit ne savait pas tout. Et il a été tellement choqué par le fait qu'on ait repris ses propos, parce qu'il était sûr de ce qu'il avançait, qu'il a refait une interview, donc la semaine écoulée, dans un journal allemand où il a expliqué qu'en fait, il y avait eu deux opérations. Une opération qui était prévue et une opération qui a été improvisée plus tôt, dans laquelle sont intervenus les Norvégiens. Alors comment on fait ? Je vais vous donner la recette. Alors si vous avez envie, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, si vous avez envie de plastiquer un gazoduc, voilà comment il faut faire. Pour plastiquer un gazoduc, il faut avoir un avion de reconnaissance de surveillance sous-marine. Cet avion de reconnaissance sous-marine vient lâcher un objet qui va être une espèce de télécommande dans l'eau, et cette télécommande va, comme par hasard, si elle est lâchée au bon endroit, atterrir dans un mécanisme de déclenchement d'un explosif que des plongeurs ont, dans les journées précédentes, judicieusement installé à un endroit fragile ou à une jonction de plusieurs tubes du gazoduc. Bon, donc l'opération est très facile à monter, et elle était tellement facile qu'elle avait été d'ailleurs répétée, puisqu'il y a un des exercices de la marine des États-Unis et de l'OTAN qui avait eu lieu dans les eaux de la Baltique, qui consistait effectivement à jouer comme ça avec des mines. C'est-à-dire que, vous savez ce que c'est que les manœuvres militaires, il y a des bleus et des rouges qui s'opposent. Et le jeu, la dernière fois, c'était de dire, les bleus mettent des mines au fond, et les rouges viennent les chercher avant qu'elles explosent. Alors, si elles explosent avant, les rouges ont perdu. Si les rouges arrivent à les enlever et avant qu'elles explosent, ils ont gagné. Voilà, c'est ça à quoi jouent les militaires. Ça fait partie de l'entraînement, c'est normal. Bon, tout ça était prêt puisqu'on avait déjà fait. Donc, on a profité de ces manœuvres qui consistaient à faire jouer à la mine qui explose pas, etc. Il y avait beaucoup de monde autour pour aller glisser très discrètement les mines qui devaient faire exploser le gazoduc au bon endroit. Vous voyez, comme quoi tout était prévu de longue date. Prévu de longue date. Et aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que tout le monde sait maintenant que c'est les États-Unis, c'est l'équipe à Biden qui a mené le coup, que ça n'a été pas tout à fait bien fait, puisque la deuxième opération menée par l'avion de surveillance norvégien n'a pas réussi en ce sens qu'elle devait faire éclater deux gazoducs. Il y a deux lignes, en fait, pour le gazoduc numéro 2, qui sont éloignées l'une de l'autre. Et donc, il n'y en a qu'une. Et il y a encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, un des gazoducs qui peut fonctionner, si on le veut politiquement. Donc c'est tout à fait, ça peut se rétablir, et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement des États-Unis n'osera pas recommencer une autre opération de ce genre. Voilà, je regarde l'heure rapidement pour vous parler d'autres petites choses, et en particulier du secours à la Syrie. Pourquoi parler du secours à la Syrie ? Vous savez donc les conséquences du tremblement de terre qui vont être amplifiées par une nouvelle secousse un peu moins forte qui a eu lieu hier, hein, échelle 6,5 sur l'échelle de Richter hier. Donc ça va encore accélérer la chute d'immeubles fissurés, lézardés, etc. Et il y a beaucoup plus de morts côté turc, où se trouvait l'épicentre du séisme, que du côté syrien. Ça, c'est la réalité. On est certainement au-dessus de 40 000 morts en Turquie, et plutôt autour de 5 000 dans la Syrie. Mais la question qui est posée pour la Syrie, c'est de savoir comment l'aide internationale y arrive. Alors là, on a effectivement deux cas complètement opposés, c'est-à-dire pour la Turquie, toute l'aide internationale peut arriver sans difficulté, et le gouvernement est responsable de sa réception, de la distribution, etc. Bon, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Bon, c'est lourd, mais c'est de la logistique classique, c'est une bonne administration des choses, il n'y a pas de problème. Le problème pour la Syrie est très différent, puisque la Syrie est depuis maintenant des années sous embargo, alors un embargo qui a été de plus en plus sévère et qui a été accru dramatiquement par Trump, par ce qu'on appelle la loi César, en 2019, c'est-à-dire que pratiquement la Syrie ne peut commercer avec personne. Et donc la question qui s'est posée, et qui est posée encore devant nous, c'est de savoir comment l'aide internationale par rapport à cette catastrophe, comment le sauvetage de ceux qui sont encore ensevelis, le soin des blessés, etc., et la reconstruction peuvent se faire dans la mesure où la Syrie n'a pas le droit de commercer sur l'échelle internationale. Et ceux qui commercent avec elle seraient soumis à des sanctions. Alors, il y a effectivement des législations, des textes de l'ONU qui prévoient qu'on peut suspendre l'embargo, c'est-à-dire l'interdiction de commercer, pour faire venir du matériel pour sauver des vies. Ça existe dans les textes. Le problème qui se pose, et il est subsidiaire, mais vous allez voir comme le vice se cache dans les détails, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont décidé que ces mesures s'appliquaient, c'est-à-dire que l'embargo est levé pour 180 jours, donc une demi-année en gros, mais il est précisé que les secours ne peuvent pas arriver dans les mains du gouvernement syrien. Ça veut dire que les secours vont arriver ailleurs. Les secours vont arriver ailleurs, ils peuvent arriver chez des djihadistes, ils peuvent arriver chez n'importe qui, chez d'autres groupes qui ne sont pas des groupes légaux, des groupes terroristes. Et en particulier, il faut savoir qu'une bonne partie du matériel arrive par la Turquie et que pour aller de la Turquie à la Syrie, il y a un passage qui est ouvert et qui est un passage qui est tenu par les djihadistes. Donc effectivement, vous pouvez très bien imaginer que la totalité de ce que vous avez envoyé pour des soins, du pansement, des antibiotiques, enfin tout ce qu'on peut, des couvertures, des tentes, etc., va tomber non pas entre les mains des autorités syriennes, mais va tomber entre les mains des gens qui, soit en feront commerce, c'est-à-dire s'enrichiront pour revendre le matériel humanitaire qui leur est donné, soit utiliseront ça comme une espèce d'arme de propagande pour dire aux populations qui sont sous leur coupe « Je vous donne de la nourriture, je vous donne des couvertures, je vous donne une tente, mais désormais vous m'obéissez ». On a affaire à un système de racket dramatique, c'est-à-dire que des groupes terroristes peuvent soumettre une population qui est en train de crever de faim, qui crève de froid parce qu'il fait très froid dans les zones où a lieu le tremblement de terre, et qui, fait ce qu'il veut et que le gouvernement syrien n'a aucune possibilité. C'est-à-dire aujourd'hui, officiellement, aucun don ne peut arriver au gouvernement syrien. C'est comme s'il n'existait pas. Ça, c'est la politique des États-Unis. Heureusement, et je vais finir là-dessus, heureusement, il y a des pays, surtout des pays voisins et des pays arabes, qui, bien que n'étant pas jusqu'à présent des alliés ou des soutiens réguliers du gouvernement syrien, ont commencé à réagir. Le premier à le faire, ça a été le voisin jordanien, qui a ouvert sa frontière et qui a envoyé du matériel directement aux autorités syriennes, et pas à n'importe quelle ONG finançant des activités plus ou moins légales. L'Égypte vient de le faire, c'est-à-dire l'Égypte vient d'envoyer un cargo entier avec du matériel humanitaire qui est arrivé au port de Latakié. L'Arabie saoudite elle-même a envoyé un avion à Alep avec du matériel dedans. L'Algérie a fait aussi des gros envois. Donc on a une véritable solidarité du monde arabe par rapport à la population syrienne qui envoie donc à destination du gouvernement de Damas, malgré tout le passé politique et tous les différends entre les uns et les autres, du matériel pour sauver la population syrienne. Ça, c'est à noter parce que c'est une évolution qui n'était pas prévue du tout. Et en fait, il y a un sentiment alors qui a été repris. Ces gouvernements qui font ça, je veux dire l'Égyptien, l'Algérien, le Jordanien, etc., font ça parce que leurs opinions publiques pensent qu'il faut le faire. Et leurs opinions publiques savent très très bien que la Turquie reçoit toutes les aides dont elle a besoin et que la Syrie ne les reçoit pas ou a de la difficulté à les recevoir. Donc ces pressions, ce sentiment populaire qui a amené ces gouvernements à changer totalement de position. Et ça, il faut s'en féliciter, c'est-à-dire une espèce d'évolution de l'opinion dans le monde arabe qui fait que la politique des États-Unis consistant à faire tomber le gouvernement syrien n'est pas acceptée dès l'instant où ça se fait sur des cadavres. Donc, on a quelque chose de tout à fait positif de ce point de vue-là. Je vous en reparlerai certainement. Le dernier sujet que je voudrais aborder, mais ça fait partie de la façon dont les choses se passent, c'est que pendant que ces choses-là se passent, c'est-à-dire que la solidarité du monde arabe par rapport au peuple syrien qui a souffert se manifeste très très clairement et très officiellement et se manifeste par des décisions gouvernementales, Israël se permet de venir bombarder un quartier chic de Damas qui n'a rien à voir avec le tremblement de terre parce que le tremblement de terre n'a pas eu lieu à Damas. Israël ajoute des morts supplémentaires, une destruction d'immeubles supplémentaires à la catastrophe dont le pays vient d'être la victime. Voilà ce que c'est que la politique israélienne du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ça a une sanction diplomatique dont je me félicite, c'est-à-dire qu'il s'est tenu une réunion de l'Union africaine et la délégation israélienne, qui n'était pas invitée, a essayé de rentrer en séance, de participer au débat de l'Union africaine, et plusieurs pays s'y sont opposés, c'est-à-dire que l'Algérie en tête, l'Afrique du Sud et tout, ont dit « mais Israël n'est pas invité, Israël ne fait pas partie de l'Union africaine, Israël ne participera pas à cette réunion de l'Union africaine ». Je m'en félicite et on en reparlera sans doute. Dernière chose, la dernière activité africaine des États-Unis, je dis un mot là-dessus, ça consiste à empêcher, là aussi, puisque une puissance qui n'est pas capable de faire le bien fait le mal. Et c'est-à-dire que les États-Unis essayent d'éviter que la Somalie puisse se reconstituer. La Somalie est divisée en ce moment en 5 semi-États fédérés et les États-Unis font tout ce qui est en leur capacité pour qu'il n'y ait pas une élection nationale permettant la réunification de ce pays très grand et potentiellement extrêmement riche de ressources naturelles si on le laissait vivre. Mais les États-Unis sont arrivés à un état de décadence morale, intellectuelle et stratégique qui fait qu'ils ne savent plus que empêcher le reste des pays qui n'aiment pas de vivre. Voilà ma conclusion. Elle est valable pour des mois et des décennies. J'y reviendrai certainement. Merci beaucoup Yamine et à la semaine prochaine.